Chapitre 7. Au pub, situé à côté du commissariat, le Georges, Simon commanda une bière et Tony un demi.
« Tu es allé à quelle école ?»
demanda Tony.
« Merchester Grammar. »«
C'est un établissement très sélectif. J'aurais pu y aller aussi, mais selon ma mère, on n'avait pas les moyens de payer l'uniforme. »«
C'est le cas de beaucoup d'enfants. C'est pour ça qu'ils ont une boutique de vêtements de seconde main dans l'enceinte de l'école, »
expliqua Simon.
« Ah bon ? Disons que ma mère avait quelques problèmes à l'époque. Parlons boulot, qu'est-ce que tu veux savoir ?»«
Avant tout, je veux savoir si Agatha Reza est une bonne patronne, parce que tu n'as pas l'air en grande forme. »
« J'ai perdu une amie avec laquelle je travaillais. »«
Cette fille, Sharon, qui a été assassinée ?»
Tony acquiesça d'un signe de tête.
« Ce travail est si dangereux que ça ?»«
En général, non. On assure surtout des missions de routine, disparition d'animaux et d'enfants, adultères. Sharon s'est mise à fréquenter les mauvaises personnes, des bikers.
Tu as consulté une aide psychologique pour t'aider à faire ton deuil ?»«
Non, rien de tout ça. » Je n'étais pas de sa famille, c'était seulement une amie, et une amie qui me sortait par les yeux juste avant sa mort.
« Tu es déjà allé à Perth Park ?»
Tony le regarda avec surprise.
« Non, pourquoi ?»«
Ils ont des montagnes russes d'enfer, à l'écu sec, on y va. »«
Mais pourquoi faire ? Tu verras. »
Simon avait garé sa moto sur la place du village. Il donna un casque à Tony et enfila le sien.
« C'est n'importe quoi !» protesta Tony quand ils arrivèrent à l'entrée du parc d'attractions.
« Fais-moi confiance. Je ne suis jamais montée dans ce genre de manège. Je vais être malade.
Mais non, suis-moi. »
Une fois attachés sur leur siège, ils commencèrent à s'élever dans les airs, jusqu'à ce que Tony aperçoive les Malvern Hills au loin. Quand ils atteignirent le sommet, Tony agrippa le bras de Simon.
« Je n'y arriverai jamais. »
La voiture plongea et Tony se mit à crier. Elle hurla comme une banshee pendant tout le tour, et quand Simon l'aida enfin à descendre, elle avait les jambes qui flageolaient.
« Pourquoi tu m'as fait faire ça ? »
questionna-t-elle d'une petite voix.
« Ça s'appelle la thérapie du cri. Je suis venue ici quand mes parents ont été tués. Ne t'en fais pas pour le boulot, j'apprendrai sur le tas.
Oh, regarde, de la barbe à papa, je vais nous en chercher. » Il s'éloigna joyeusement, se retournant pour lui adresser un large sourire.
« Quel garçon étrange, pensa Tony. Il ressemble à un bouffon médiéval. Il ne lui manque que le bonnet et les grelots. »
Cette nuit-là, elle dormit comme elle n'avait plus dormi depuis la mort de Sharon. Le matin suivant, Simon signa son contrat. Surpris par la générosité de son salaire, il leva les yeux vers Agatha.
« Je vous embauche à temps plein. Une bonne intuition, » expliqua celle-ci. « Cela dit, ne vous emballez pas, vous êtes en période d'essai. J'avais prévu de vous mettre le pied à l'étrier avec des bricoles, mais j'ai besoin d'un regard neuf sur un dossier. Vous avez entendu parler du meurtre de Johnson Day ?»«
Oui. »
« Je veux que vous épluchiez tout ce qui se rapporte à cette affaire. Passez la journée dessus et voyez si vous avez des idées. Vous trouverez toutes les infos sur l'ordinateur qui est là-bas. »
Agatha croisa le regard morne de Tony et pensa avec irritation « Oui, je sais, c'était le bureau de Sharon, mais je peux difficilement y déposer une couronne de fleurs et faire brûler des cierges. » Puis elle présenta Simon au reste de l'équipe. Le jeune homme s'installa et se mit au travail. Il entendait vaguement Agatha discuter des autres missions. Il se concentra sur les dossiers, ignorant tout le reste, y compris ses pensées concernant Tony. Il avait déjà été amoureux une fois, et cela avait tourné au désastre. Il ne voulait plus jamais souffrir comme ça. Jolie, intelligente, désarmante d'innocence, Tony était dangereuse. Tandis qu'il lisait les rapports, il essayait de se représenter la scène qui s'était déroulée dans le salon du presbytère quand un Sunday ensanglanté s'était écroulé contre la porte-fenêtre. Apparemment, personne n'avait quitté la pièce, à part Myriam Courtney et Miss Sims. Lorsqu'il releva la tête une demi-heure plus tard, le bureau était presque vide. Il ne restait que Mrs. Friedman.
« Pourquoi Miss Sims et Mrs. Blocksby ? » interrogea-t-il.
« Quoi ? Que voulez-vous dire ? » répondit Mrs. Friedman.
« Pas de prénom ? » ?»«
Oh, elles sont membres de la Société des Dames de Carsley. C'est une tradition un peu vieux jeu. Elles ne s'appellent jamais par leur prénom. »
Simon se concentra ensuite sur Tilly Glossop. Il était écrit qu'elle avait eu une liaison avec Sunday. Avait-il utilisé cette photo d'elle avec le maire pour obtenir des parties de jambes en l'air à peu de frais ? Son estomac se mit à gargouiller et, surpris, il leva les yeux vers l'horloge.
« Je sors déjeuner, » déclara-t-il. « Ensuite, j'irai à Audley Cruises pour jeter un coup d'œil au lieu. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose ? » Non, j'ai mangé un sandwich. Vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux appeler Mrs. Raisin d'abord et la prévenir que vous vous rendez là-bas? Je serai à moto et j'aurai mon casque sur la tête. Je veux juste prendre la température sur place.
Simon se rendit au Burger King le plus proche et engloutit un hamburger et des frites avant d'enfourcher sa moto et de se mettre en route. Il traversa prudemment le village et se gara sur la colline qui le dominait. Les visiteurs de cette région magnifique passent souvent à côté du village comme Audley Cruzis, caché dans un repli de la chaîne de collines que forment les Cotswolds. Ils préfèrent se rendre sur les principaux sites touristiques, tels que Chipping Campden, Burton-on-the-Water ou Stow-on-the-Wold. Le village était très calme. Le vent murmurait dans la cime des vieux ormes qui entouraient le petit triangle d'herbe de l'ancien pré communal, faisant office de place du village. Les cottages, que Simon voyait, étaient tous très petits et tellement couverts de plantes grimpantes, glycines, clématites, vignes vierges, que les murs eux-mêmes semblaient faire partie intégrante de la végétation. Simon s'approcha de l'église et examina le tableau d'affichage. Les avis annonçant les événements et manifestations étaient pour l'essentiel anciens et décolorés. Mais il y en avait un nouveau, récemment punaisé. Il disait « Chambre à louer dans charmante maison d'époque ». Contactez Miss May Dinwoody. Suivait une adresse et un numéro de téléphone. Il sortit son portable et appela Agatha. Lorsqu'il eut fini de parler, celle-ci se mit à brailler au bout du fil.
« Quoi? Vous voulez vous installer à Audley Cruzis? Ça pourrait être dangereux. Non seulement il y a déjà eu 2 meurtres, mais un de mes amis a été assommé et a fini à l'hôpital. Et de toute façon, quelle foutue excuse vous inventeriez pour habiter là-bas? »
Je dirais que mes parents sont morts dans un accident de voiture, ce qui est vrai. Que je recherche un endroit paisible et calme pour me remettre de ce traumatisme, que j'aimerais entrer en religion.
Ça aussi, c'est vrai?
Une visite à la bibliothèque de Merceuster et j'en apprendrai bien assez sur Dieu. Je suis douée pour me fondre dans la masse.
D'accord, tentez le coup, mais je veux que vous me fassiez un rapport tous les soirs. Nous garderons ça secret. Ne vous approchez pas de l'agence. Je dirai à tout le monde que vous avez décidé de ne pas accepter mon offre. Vous avez suffisamment d'argent pour la caution?
Oui. Je ne veux pas précipiter les choses, alors ça prendra peut-être un peu de temps.
Vous vous rappelez l'endroit exact où habite May Dinwoody?
Oui, le vieux moulin. On y accède par le chemin qui longe l'épicerie.
Simon jeta un coup d'œil à la boutique du village en passant. Elle avait l'air sinistre, avec sa banderole en lambeaux ornée du slogan « Votre épicerie de village, sans vous, elle coulera ».
Je ferais mieux de faire mes courses ici, pensa-t-il.
Dans cet endroit, les gens considèrent probablement qu'une visite au supermarché est un acte de trahison.
Amusant. Ce village ne me semble pas si paisible que ça. J'ai l'impression que des centaines d'yeux m'observent.
Simon emprunta un chemin humide et plein d'herbes folles jusqu'au moulin qui surplombait tristement une espèce de mare envahie de mauvaises herbes. Il appuya sur la sonnette de l'appartement numéro 3 et par l'interphone, une voix lui dit d'entrer. Les premiers mots de May Dinwoody, lorsqu'elle le vit, exprimèrent une certaine déception.
« J'espérais quelqu'un de plus vieux. » remarqua-t-elle de sa voix de fausset. « Peut-être un gentleman d'un certain âge. Il y a eu des meurtres dans ce village et on a tellement peur. »
Simon sourit. « Peut-être qu'un homme jeune serait mieux à même de vous protéger. »«
Oh, eh bien, entrez alors. Prenez un siège. »
May Dinwoody, qui avait les cheveux gris, portait un curieux assortiment de vêtements. Un cardigan marron miteux passé sur un haut de soirée rouge à sequins, un sarouel et des tennis.
« J'espère que vous avez de bonnes recommandations, » fit-elle.
« J'ai apporté mes bulletins scolaires, mon diplôme du bac et mon permis de conduire. Je n'ai pas de recommandations d'employeur parce que je n'ai jamais travaillé. Mes parents ont été tués dans un accident de voiture l'année dernière et ça m'a pris beaucoup de temps de mettre leurs affaires en ordre avec les avocats. Ma maison est au 22 Blackberry Avenue à Merceuster, mais elle est à vendre. Je voudrais m'installer dans un endroit très calme pendant un moment, jusqu'à ce que je décide de ce que je vais faire. » « Je songe sérieusement à entrer en religion. »«
Je pense que vous ferez parfaitement l'affaire, » s'enthousiasma May. « Nous allons prendre un café et ensuite nous irons au presbytère qui se trouve en face. Comme ça, vous pourrez faire connaissance avec notre pasteur. Mais d'abord, je vais vous montrer votre chambre. Elle est peut-être un peu petite, mais malheureusement, elle ne donne pas sur la retenue d'eau du moulin. C'est vraiment la vue sur le plan d'eau qui m'a convaincue de m'installer ici. »
Comment un marigot aussi froid et vaseux avait pu attirer quiconque dépassait l'entendement. Mais Simon suivit son hôtesse jusqu'à une pièce située à l'arrière de la maison. La chambre, quoique petite, était dotée d'une grande fenêtre qui donnait sur la place du village.
L'ancien propriétaire était un artiste. C'est lui qui a fait percer cette grande fenêtre, expliqua May. Quel sacrilège! Il n'aurait jamais obtenu de permis de construire aujourd'hui.
La pièce était meublée simplement. Un lit étroit, une armoire, une commode, un bureau devant la fenêtre et trois chaises.
Je vais vous montrer la salle de bain. Je crains de devoir vous demander de fournir vos propres draps et vos propres serviettes.
Ce n'est pas un problème. Je me débrouillerai.
Bien. Suivez-moi. À droite du salon se trouve la cuisine. Nous devrons partager le réfrigérateur. J'occupe les deux clayettes du bas. Vous pouvez utiliser celle du haut ainsi qu'un tiroir du congélateur. Ce placard ici à gauche est également à vous.
Ça me va.
Il y a une autre pièce par là, mais je l'utilise comme atelier. Je fabrique des jouets.
Comme c'est charmant. La voix de May se mit à trembler.
Maintenant, la question du loyer.
Combien ?
75 livres par semaine et 3 mois d'avance.
Ok. Vous acceptez l'échec ? May eut l'air étonné. Si vous disiez que je suis votre neveu ou un truc comme ça, ajouta Simon, je pourrais vous payer en liquide. Vous n'auriez pas à payer d'impôts ?
Mais ce serait criminel.
Simon arbora un large sourire. N'est-ce pas ?
Ne serait-ce pas un peu, comment dire, un peu vilain ?
Juste un peu.
Oh, alors d'accord, céda May. C'est une bonne chose que John Sunday soit mort. Il n'aurait pas manqué de découvrir le poteau rose.
Les journaux ont beaucoup parlé de ce meurtre. Peut-être qu'avant de rencontrer le pasteur, je devrais repasser chez moi chercher mes affaires et aller retirer de l'argent à la banque.
Oui, oui, bien sûr, pépia May.
Je suis censée être écossais comme vous ?
Ce n'est pas la peine. Ma pauvre sœur, aujourd'hui défunte, avait épousé un Anglais. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais personne dans le village ne le sait.
Simon prit congé et May s'assit, les yeux fixés sur les ondulations de la retenue d'eau. Elle tirait un peu d'argent de la vente de ses jouets sur les marchés et dans les foires, mais sa pension de retraite était loin d'être mirifique. Son dernier luxe était de fumer, et chaque jour, elle pensait à arrêter. Et si ce curieux jeune homme ne revenait pas ? Mais 2 heures plus tard, Simon revint au volant de la vieille Maurice Minor de son père. Il déchargea un carton rempli de draps, de serviettes de bain et de têtes d'oreiller, puis donna à May une enveloppe remplie d'argent. Alors qu'il suspendait ses vêtements, Simon éprouva quelques regrets à l'idée de ne pas voir Tony pendant un moment. Agatha Raisin avait l'air d'être une femme plutôt redoutable. Cela étant, il était de notoriété publique qu'elle avait résolu beaucoup d'affaires criminelles, et pour ça, il fallait être intelligent. Le marché de Mercester se tenait une fois par semaine sur la petite place devant l'abbaye. Agatha adorait flâner dans ses allées et se laissait souvent tenter par des fruits et légumes qu'elle ne trouvait jamais le temps de cuisiner et finissait par donner. Tandis qu'elle musardait entre les étals, son regard s'arrêta net. Là, à quelques mètres d'elle, se trouvait la sœur de Tom Courtney, Amy Burns. Son estomac se souleva. Elle n'avait aucun doute sur les intentions de cette femme. Les meurtriers, ou dans le cas d'Amy, les assistants meurtriers, ne revenaient-ils pas toujours sur les lieux du crime pour mieux assouvir leur vengeance ? Agatha contourna furtivement les étals pour se retrouver derrière la femme, l'empoigna fermement et se mit à hurler « Police, à l'aide !» 2 agents en patrouille accoururent. « Lâchez-moi !» cria Amy avec un accent américain. « Cette femme est folle !»«
Cette femme !» haleta Agatha. « Elle est la sœur d'un meurtrier, Tom Courtney !»
Les policiers prirent le relais. Ils menottèrent Amy et l'emmenèrent, Agatha sur les talons. On dit à cette dernière d'attendre dans la zone d'accueil du commissariat. Un sentiment de triomphe l'envahit. Elle était sur un petit nuage. Au bout d'une demi-heure, un homme à la haute stature s'approcha à grandes enjambées de l'agent assigné à l'accueil.
« Je peux savoir pourquoi vous retenez ma femme ?»«
Son nom ?»« Maisie Berger. Nous sommes ici en vacances et on m'a dit qu'une femme au marché s'était mise à hurler sur cette pauvre Maisie et que des policiers l'avaient emmenée ici. »
L'agent appuya sur le bouton d'ouverture de la porte.
« Si vous voulez bien entrer, monsieur ?»
Une boule commença à se former dans la gorge d'Agatha. Elle ne pouvait pas s'être trompée. Il devait avoir de faux passeports. Impossible autrement. Une autre demi-heure s'écoula lentement. Le palmier en plastique qui trônait dans la zone d'attente était couvert de poussière. Les bruits joyeux du marché filtraient depuis la rue. Les journalistes commençaient à arriver, demandant à savoir qui avait été arrêté. Ils se retournèrent, aperçurent Agatha et se dirigeaient vers elle quand l'inspecteur divisionnaire Wilkes fit son entrée.
« Mrs. Raisin, si vous voulez bien me suivre !»
Agatha fut conduite dans une salle d'interrogatoire. En prenant place en face de Wilkes, elle remarqua qu'il était seul et qu'il n'avait pas déclenché le magnétophone.
« La femme que vous avez empoignée est exactement la personne qu'elle dit être », expliqua Wilkes.
« Mais bon sang, qu'est-ce qui a bien pu vous faire penser qu'il s'agissait d'Amy Burns ?»«
C'est à cause de ce look lifté californien. Vous savez, elles ont toutes l'air d'extraterrestres qui viendraient de la même planète. »
Nous leur avons présenté nos plus plates excuses, et pour qu'ils ne portent pas plainte, nous avons été obligés de régler leur note d'hôtel et de leur offrir une semaine dans un spa, ainsi qu'un jeu de club de golf pour le mari. Nous ne manquerons pas de vous envoyer la note, et en échange, nous ne vous arrêterons pas pour entrave à l'exercice de la justice. Vous sortirez par la porte de derrière, et vous ne parlerez pas à la presse, pas un mot, compris ?»«
Compris, » gémit Agatha.
L'expression de Wilkes s'adoucit un peu. Il devait admettre que lui aussi avait eu un choc en voyant Mrs. Berger. Elle ressemblait trait pour trait à Amy Burns, qui était toujours recherchée.
Contentez-vous donc de vos enquêtes de routine, Mrs. Raisin. Ce sera tout.
Il actionna une sonnette et ordonna à la policière qui se présenta de faire sortir Agatha par la porte de derrière. De retour au bureau, Agatha dit à Mrs. Friedman :
Si la presse appelle, je ne suis pas disponible.
J'ai déjà reçu quelques coups de fil.
Soupira la secrétaire. Patrick se servait une tasse de café.
« Qu'est-ce qui se passe ?»
Agatha lui raconta sa mésaventure.
« Comment ai-je pu être aussi stupide ?»
conclut-elle. Patrick la dévisagea un long moment.
« Vous avez déjà vu une photo du docteur Burns ?»«
Non, pourquoi ? Enfin, si, j'ai dû en voir une dans le journal, mais elle était de mauvaise qualité. »«
Attendez, je vais jeter un œil dans mon ordinateur, » dit Patrick. J'ai pris contact avec un gars de la police de Philadelphie et il m'a envoyé deux ou trois trucs.
Laissez tomber, ils sont sans doute les touristes qu'ils disent être, protesta Agatha. Ils avaient des passeports, j'imagine.
Donnez-moi quelques minutes, fumez une cigarette et détendez-vous.
Quand Agatha alluma sa cigarette, Mrs. Friedman poussa un soupir sonore et ouvrit ostensiblement la fenêtre située à côté de son bureau.
Je vais fermer la porte à clé, déclara Agatha. J'entends les pas des journalistes dans l'escalier.
Patrick pianota sur son clavier d'ordinateur, tandis que sa patronne s'efforçait d'ignorer les coups de sonnette et les cris lancés par la fente de la boîte aux lettres.
« Ça y est !» annonça-t-il enfin. « Venez voir !»
Agatha s'approcha de l'ordinateur et examina le cliché qui s'affichait sur l'écran.
« C'est lui !» s'écria-t-elle. « L'homme qui prétend s'appeler Berger ! Ce qui signifie qu'il s'agissait bien du docteur Burns et d'Amy ! Allez, Patrick, imprimez ça ! On va voir Wilkes !»
« Qu'est-ce qu'elle fabrique encore ?»
lâcha Wilkes lorsque l'agent affecté à l'accueil l'informa que Mrs. Raisin était de retour, accompagnée de Patrick Mulligan, qu'il détenait des informations d'une importance capitale et que s'il ne les recevait pas immédiatement, un meurtrier, une meurtrière en l'occurrence, resterait impuni. Il avait empêché les journalistes d'entrer, mais Mrs. Raisin leur avait promis une déclaration après son entrevue avec la police.
« J'envoie quelqu'un la chercher, » répondit Wilkes. « Je crois bien qu'elle a fini par perdre la boule. »
L'inspectrice Collins arriva sur ces entrefaites, une lueur de méchanceté dans le regard, les cheveux tirés comme d'habitude en un chignon si serré qu'Agatha se demanda comment il était possible qu'il lui reste encore des cheveux.
« Vous avez réussi votre coup cette fois, espèce de vieille carne !» attaqua Collins. « Les journalistes vont en faire leur chou gras !»«
Oh, ça oui, je vous le confirme !» susurra Agatha.
Wilkes vint à sa rencontre dans le couloir.
« Entrez !» aboya-t-il. « Quelle idée tordue vous est encore passée par la tête !»
Patrick et Agatha le suivirent docilement dans la salle d'interrogatoire.
« Montrez-lui la photo, Patrick !»
Celui-ci posa le cliché sur la table.
« Ceci, fanfaronna Agatha, est une photo du docteur Burns, le mari d'Amy Burns. Ça vous rappelle quelqu'un ?»
Wilkes lâcha un tonitruant « Ne bougez pas !» et se rua hors de la pièce. Ils l'entendirent hurler des ordres frénétiques. Agatha s'approcha de la fenêtre. Des policiers surgissaient du commissariat et se précipitaient en direction du George Hotel. Des voitures de police s'éloignaient sur les chapeaux de roue. Patrick s'approcha d'elle.
« Regardez-moi ça, » dit-il. « Ça me rappelle une citation amusante à propos d'un chevalier qui saute sur son cheval et s'en va comme un fou dans tous les sens. »
Qu'est-ce qui a pu pousser Amy à venir ici ? Demanda Agatha.
Elle s'est sans doute dit que ce serait le dernier endroit où l'on s'attendrait à la voir. Peut-être qu'elle veut se venger de vous. Elle semble très proche de son frère. Les jumeaux sont souvent très liés. Ils sont sans doute loin d'ici à l'heure qu'il est.
et ça n'a effleuré personne que le mari puisse être complice ?
Pas une seconde. Républicain bon teint, contribution annuelle au fonds pour la police de Philadelphie, un citoyen modèle.
Je me demande pourquoi Tom Courtney voulait que je cherche le meurtrier. Il pensait vraiment que j'étais si nulle que ça et que je ne devinerais jamais que c'était lui ?
Peut-être qu'il avait une si haute opinion de lui-même qu'il pensait que vous succomberiez à son charme.
Un vrai tordu ! Grommela Agatha, sentant une rougeur coupable lui monter aux joues.
Bon sang, regardez, ils les tiennent ! S'exclama Patrick.
Amy et son mari traversaient la place, escortés par un détachement d'agents de police et d'inspecteurs.
C'est le moment pour l'agence de se faire un peu de pub !
Agatha arbora un large sourire.
Allons voir la presse !
Patrick s'approcha de la porte, puis se retourna surpris.
C'est fermé à clé.
Nom d'un chien, donne nom d'un chien. Ils ne peuvent pas me faire ça. Ils ne veulent pas que je sorte d'ici et que j'explique à la presse combien ils se sont ridiculisés.
Agatha se mit à tambouriner à la porte jusqu'à ce que Wilkes finisse par ouvrir.
Sortez par derrière, Mrs. Raisin. Je me charge de parler à la presse.
Sans moi, vous ne les auriez jamais attrapés,
vociféra Agatha. C'est très simple.
Si vous ne quittez pas le commissariat discrètement, je veillerai à ce que vous n'obteniez plus d'aide de notre part.
Quoi ? Et je peux savoir quand vous m'avez aidé ?
Faites ce qu'on vous dit. Fichez le camp. L'inspecteur Wong va vous escorter.
Agatha était hors d'elle. Je suis surprise que vous jouiez le jeu de Wilkes,
lança-t-elle à Bill une fois dehors. Et que voudriez-vous que je fasse ? Désobéir aux ordres ? Dès que j'aurai la possibilité de m'éclipser, je passerai vous voir pour vous raconter ce que je peux.
Il est hors de question que je quitte les lieux en catimini, maugréa Agatha après le départ de Bill. Nous sommes dans un pays libre. Faisons le tour derrière la foule, ils ne nous verront pas. Je veux savoir ce que Wilkes va raconter.
La presse se massait devant le commissariat. Wilkes se faisait désirer. Il y avait de plus en plus de journalistes. Une camionnette de la télévision arriva en trombe et se gara sur la place.
Une foule de badauds se joignit aux journalistes. Restons derrière, dit Agatha.
Au bout d'une heure, elle commença à avoir mal aux pieds. Ils durent patienter encore une demi-heure avant que Wilkes fasse enfin son apparition devant le commissariat, flanqué du commissaire divisionnaire Jack Petrie d'un côté et de l'inspectrice Collins triomphante de l'autre.
« Nous ne ferons qu'une brève déclaration, » annonça Wilkes. « Nous avons procédé à l'arrestation d'un homme et d'une femme en lien avec le meurtre de Myriam Courtney. Nous ferons une autre déclaration demain. Ce sera tout. Merci pour votre patience. » « Minute, papillon !»
cria une voix forte. Agatha se dressa sur la pointe des pieds et reconnut un journaliste local, Jimmy Torrance, qui jouait des coudes pour se frayer un chemin dans la cohue des reporters.
« L'inspectrice Collins m'a dit que la détective privée Agatha Raisin s'était ridiculisée en faisant arrêter la mauvaise femme. Était-ce la mauvaise personne ou Agatha Raisin avait-elle raison depuis le début ?»«
J'avais raison !»
brailla Agatha. La foule des journalistes fit volte-face et se groupa autour d'elle. Wilkes se tourna vers Collins et lui intima l'ordre de le suivre. Agatha, sentant qu'elle avait une raison légitime de se défendre, donna à la presse sa version des faits en prenant soin d'omettre tout détail qui pourrait être considéré plus tard comme essentiel pour l'enquête en cours. Elle déclara simplement avoir sollicité l'aide de la police après avoir reconnu une femme qu'elle pensait être suspecte dans une affaire de meurtre. La police lui avait dit qu'elle avait commis une terrible erreur, mais son détective, Patrick Mulligan, avait trouvé une photographie prouvant sans l'ombre d'un doute qu'elle ne s'était pas trompée. Agatha conclut avec tact en disant au journaliste qu'il devait contacter la police pour de plus amples détails.